en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la séance publique de l'Académie des Beaux-Arts qui s'est déroulée le 25 juin 2008. Ce jour-là, Jean-Louis Marinier, chercheur au CNRS, a prononcé une communication intitulée « Aux origines de la photographie, Nicéphore Niépce ». Retrouvons en grande salle des séances Jean-Louis Marinier pour nous parler de l'invention de la photographie.
Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation et remercier Lucien Clerc donc de m'avoir invité à venir présenter les travaux que j'ai effectués sur la reconstitution du procédé de Nicéphore Niépce. Je suis très honoré, très fier d'être ici, comme je le crois sont tous les orateurs qui sont invités à prendre la parole ici. Je suis ému à double titre. Je suis ému parce que je suis ici dans cette salle où Arago, en 1839, le 16 août 1839, Arago a annoncé l'invention du daguerréotype mis au point par Daguerre, l'invention donc du premier procédé photographique praticable. Il a annoncé donc ici dans une séance où étaient réunis à la fois l'Académie des sciences et l'Académie des beaux-arts. C'est donc ici qu'a eu lieu l'annonce de l'invention de la photographie. Évidemment, la séance a été consacré au procédé de Daguerre, mais dans son exposé, Arago a mentionné Nicéphore Niépce, qui avait 10 ans auparavant, en 1829, mis au point un procédé qui lui permettait de capter les images de la chambre obscure. Procédé difficile, il est vrai, mais procédé qui permettait, pour la première fois, il était le premier au monde à capter les images et donc à réaliser des photographies que lui appellera héliographie. Voilà, donc en 1829, 10 ans auparavant, Nicéphore Niépce publiait un texte qu'il intitulait « Notice sur l'héliographie ». Et dans ce texte, il écrivait en introduction « La découverte que j'ai faite et que je désigne sous le nom d'héliographie consiste en la reproduction spontanée par l'action de la lumière avec toutes les dégradations du noir au blanc des images reçues dans la chambre obscure ». Donc c'est tout à fait typiquement la définition de la photographie qui est encore une photographie noir et blanc. Nicéphore Niépce, donc je me suis intéressé à lui dans les années 90 parce qu'il s'est avéré que j'essayais de comprendre le début de la photographie et qu'en lisant des traités de photographie, je trouvais des contradictions. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur les écrits eux-mêmes de Nicéphore Niépce et donc j'ai collecté une bonne partie de sa correspondance, donc de ses manuscrits. Et à partir de là, en me fiant uniquement à sa correspondance et à ses manuscrits, eh bien, j'ai tenté de reconstituer le procédé dont la pratique s'était complètement perdue. Donc j'ai lu les manuscrits, essayé de comprendre le principe du procédé et puis petit à petit j'ai été fasciné par l'homme. Il faut dire que dans une correspondance, évidemment, on entre dans l'intimité de l'homme, on entre dans sa vie de tous les jours, et c'est ainsi que j'ai été vraiment complètement conquis par la personne. Nicéphore Niépce est né en 1765. 1765, on est sous le règne de Louis XV. Il naît à Chalon-sur-Saône, donc en Bourgogne. Alors, il est un des fils d'une famille de riches propriétaires terriens. Ses parents ont des fermes, des métairies, des vignobles, évidemment, on est en Bourgogne. Et Nicéphore Niépce, donc, est dans cette famille. Il a donc une sœur aînée, un frère aîné, Claude, qui va jouer un grand rôle dans sa vie, et un frère cadet, Bernard. Donc, il naît en 1765. 1765, c'est l'année de la parution des 10 premiers tomes de l'encyclopédie. On est à l'apogée du siècle des Lumières. Et dans le discours préliminaire de l'encyclopédie, Diderot exprime la philosophie des Lumières, cette philosophie qui en fait reprend la méthode scientifique, s'inscrit dans la méthode scientifique, elle s'inspire de cette méthode. La vérité, il dit, est à chercher dans les sciences, dans l'histoire, plutôt que dans la Bible. N'allons pas chercher dans les dogmes, dans la religion, dans les préjugés, il n'y a que la raison expérimentale, la raison cartésienne qui pourra faire progresser. Donc pas de progrès sans progrès scientifique, c'est une des grandes phrases des Lumières. Et donc c'est une période où les sciences sont en pleine évolution, bientôt presque en révolution. et ces sciences sont en train de se construire véritablement, comme certaines comme la chimie. La chimie qui est en train de se forger sous l'impulsion de Lavoisier. Il faut vous dire que Nicéphore a 5 ans, 1770, lorsque Lavoisier découvre un gaz, simultanément avec Priestley en Angleterre. Ce gaz, on lui donnera le nom d'oxygène. Donc, oui, je disais, donc Nicéphore a 5 ans quand on découvre l'oxygène. Il a 11 ans quand Lavoisier montre que l'air n'est pas un corps simple, mais qu'il est composé d'azote et d'oxygène. Et il a 20 ans quand Lavoisier fait la fameuse expérience de décomposition de l'eau en hydrogène et oxygène, et de recomposition ensuite à partir d'oxygène et d'hydrogène. Il recompose donc l'eau à partir de ces deux gaz. Donc Nicéphore a 20 ans au moment de cette expérience-là, c'est exactement cette année-là, 1785, qu'il entre à la congrégation de l'oratoire. Bon, c'est le schéma classique des familles. L'aîné doit rentrer dans les... Nicéphore Niépce donc rentre à l'oratoire en 1785. Très rapidement, il comprend que ce n'est pas sa voie. 4 ans après, 1789, c'est la Révolution française. Nicéphore s'engage dans l'armée révolutionnaire. Il participe à plusieurs batailles dans le sud de la France. Il finit par se fixer à Nice. Et en 1794, fixé à Nice, il se marie, naissance de son premier enfant, qui sera le seul survivant de tous ses enfants. Et son frère Claude le rejoint. Et là, on retrouve les deux. Et donc, en 1794, on retrouve Nicéphore Niépce avec son frère Claude à Nice, et on les retrouve s'adonnant à une occupation qui est née de la Révolution française, et cette occupation, c'est d'être inventeur. Inventeur, c'est véritablement un métier qui a été créé par la Révolution française, c'est-à-dire qu'au moment de la Révolution, pour que la nation soit une et indivisible, il a fallu inventer énormément de choses, de procédés, pour que la France ne dépende pas de l'extérieur. Un des grands faits que l'on raconte, c'est qu'en France, à cette époque-là, on ne savait faire ni les canons, ni la poudre. Et on dépendait donc de l'Angleterre et de la Prusse. Donc les savants de l'époque sont descendus de leur chaire d'académie, ont arrêté d'écrire leurs traités et se sont transformés en ingénieurs. Et très rapidement, les mathématiciens comme Monge, par exemple, a trouvé le moyen de faire des canons, de faire du bronze en France. Et c'est devenu une activité qui s'est développée, c'est-à-dire qu'au moment de la Révolution, après la Révolution, toute la France inventait. Et donc on retrouve les frères Niépce à Nice en train d'inventer. Et la première invention qu'ils font, ce n'est pas la photographie. La première invention, eh bien, c'est l'invention d'un moteur. C'est le premier moteur à combustion interne. Ils vont inventer donc le premier moteur à explosion. Ils vont lui donner un nom impossible à retenir, ils vont l'appeler pyréolophore, avec trois racines grecques, pyre le feu, éole le vent et fort je génère, donc je génère le vent par le feu. Le principe est bien celui d'un moteur à explosion, c'est-à-dire qu'on utilise l'air dilaté par une explosion pour créer un mouvement et donc créer ce moteur. Et ce moteur, au départ, il va marcher avec des poudres de résine, et à la fin, idée absolument révolutionnaire, ils vont le faire marcher avec un produit qui à l'époque s'appelle l'huile de pétrole blanche et qui est une sorte de kérosène, c'est-à-dire que ce moteur va marcher à essence. Et c'est Nicéphore Niépce, dans sa maison de campagne au sud de Châlons, qui va découvrir l'injection d'essence, qui va découvrir que pour l'essence s'enflamme et que l'explosion se fasse avec un très grand rendement, il faut que l'essence soit vaporisée sous forme de petites gouttelettes. Et les frères Niépce sont vraiment reconnus par les historiens des moteurs comme les inventeurs de l'injection du moteur à explosion. C'est leur première invention. Ils obtiennent un brevet pour cette invention qui est pris en 1807. C'est un brevet qui est pris pour 10 ans. Pendant 10 ans, il ne se passe pas énormément de choses. Les frères Niépce font progresser un petit peu le moteur. Et au bout des 10 ans, un petit peu avant, 1816, le frère aîné décide de monter à Paris et pour essayer d'obtenir une prolongation du brevet du moteur. Donc 1816, Claude l'aîné monte à Paris, les deux frères Claude et Nicéphore sont séparés, et à partir de là, ils vont entretenir une correspondance qui est très abondante, avec 2 à 3 lettres par semaine dans les débuts, et fort heureusement, cette correspondance a été conservée. Et donc j'ai travaillé sur cette correspondance pour la reconstitution des procédés de Niépce. Et ce que l'on trouve donc dans la correspondance, on comprend que du fait que les frères sont séparés, eh bien Nicéphore Niépce a décidé d'entreprendre de nouvelles recherches, une idée qu'il a derrière la tête depuis un bon moment. Il faut voir que 1816, Nicéphore Niépce a 51 ans. Cette idée, c'est d'essayer de fixer les images qui sont reçues dans la chambre obscure. Et il parle à son frère donc de ses premières expériences. La chambre obscure, donc un instrument qui est connu depuis les Grecs, On sait depuis les Grecs que lorsqu'on est dans un local qui est complètement fermé, qui est complètement obscur, donc une chambre obscure, si sur l'un des murs il y a un petit trou, eh bien sur le mur opposé, on va voir se projeter l'image qui est à l'extérieur. Donc la chambre obscure, au départ, c'est donc, on sait que c'est la chambre dans laquelle on met un trou et puis on a l'image extérieure qui est projetée. Ensuite, ça devient un instrument à dessin, c'est-à-dire que ça devient une petite boîte. Le dessinateur sort à l'extérieur et cet instrument, qui est muni d'une lentille, d'un miroir, sert pour les peintres, pour les dessinateurs, pour repérer les grandes lignes des paysages, pour repérer donc les grandes lignes de la perspective. Donc, Nicéphore se construit lui-même une chambre obscure, donc qui est une chambre toute simple, qui est une chambre en bois, qui est simplement munie d'un tuyau au bout duquel se trouve une simple lentille. Et ensuite, il va donc utiliser ces simples boîtes dont nous avons fait faire des reconstitutions donc avec Pierre-Yves Mahé à la maison Niepce. Et il les pose sur les rebords de ses fenêtres. Et dedans, il installe des supports sur lesquels il met des substances chimiques photosensibles pour essayer de capter les images. Alors, la première expérience qu'il va faire, c'est en 1816, en mai 1816. Il va faire ce que font tous les pionniers de la photographie. Il va étendre sur du papier, il va étendre du chlorure d'argent. Le chlorure d'argent, quand on a vu une seule fois comment le chlorure d'argent se comporte à la lumière, c'est absolument spectaculaire. Le chlorure d'argent, c'est une poudre blanche. On la met au soleil et en quelques minutes, on la voit devenir violet et ensuite noir. Et on voit donc une réaction qui est absolument phénoménale. Donc il va étendre ce chlorure d'argent, cette poudre blanche sur du papier. Et puis ensuite, il va placer le papier au fond de la chambre obscure et exposer par les fenêtres de sa maison. Et en quelques heures, environ une heure trente, il va obtenir une vue prise depuis une des fenêtres de sa maison sur le papier. La vue qu'il va obtenir, c'est bien évidemment un négatif, parce que là où tombe la lumière, eh bien, le chlorure d'argent devient noir. Et évidemment, là où il n'y a pas de lumière, le papier reste blanc. Donc, pour lui, c'est un demi-succès, parce qu'il veut tout de suite avoir les images qui soient ce que l'on appelle maintenant des positifs et non pas des négatifs. Et en plus, il comprend qu'il y a un problème, c'est que maintenant qu'il sort l'image de la chambre obscure, tous les endroits où le chlorure d'argent n'a pas été transformé, eh bien le chlorure d'argent commence à voir la lumière, et tout doucement, l'image commence à se noircir. Alors, c'est une première puisqu'il obtient une image, mais c'est une image instable, et donc très rapidement, il va définir l'opération de fixage, et il va employer le terme de fixer, qu'on emploie toujours en photographie, en disant il faut fixer l'image, et pour que l'image se fixe, eh bien il faut arriver... Une fois que l'image est prise, il faut arriver à éliminer le composé qui n'a pas été transformé par la lumière pour ne regarder que celui qui est transformé par la lumière. C'est exactement le principe des photographies, du fixage des photographies argentiques où on a le fixateur, l'hyposulfite de sodium, qui dissout les grains de bromure d'argent qui n'ont pas été soumis à la lumière. Alors, il continue sa démarche en se disant, puisque j'ai obtenu avec... un produit qui noircit à la lumière, puisque ça noircit à la lumière, j'ai obtenu un négatif, eh bien je vais essayer maintenant avec des produits qui se décolorent à la lumière. Donc il fait ce qu'il fera toujours dans toutes ses recherches, il compulse les ouvrages de chimie, et il va donc tomber sur le chlorure de fer. Le chlorure de fer, quand on le dissout dans de l'alcool, on obtient une solution jaune, qu'on peut étaler sur un papier, le papier est jaune, et ensuite quand on soumet le papier à la lumière, eh bien, le chlorure de fer se décompose et le papier s'éclaircit. Donc il travaille donc avec ce chlorure de fer qui est jaune et qui se décolore à la lumière, et il a à ce moment-là une image qui est positive. Mais le problème reste le même, le problème est de fixer l'image. L'image, une fois sortie de la chambre obscure, continue à se transformer et ne reste pas visible éternellement. C'est donc le problème du fixage qui est le gros problème. Il le dit à son frère dans une des lettres. Il lui dit « c'est pas difficile d'obtenir des images, ça on y arrive, mais maintenant ce qu'il faut c'est pouvoir les conserver ». Alors il réfléchit comment il pourrait faire pour conserver les images. Il réfléchit à la forme que pourraient avoir ces images pour être conservées. Il se dit « ce qui serait formidable c'est d'obtenir des images qui soient gravées dans un support ». Qu'est-ce qui grave un support? Il y a les acides. Les acides, on peut graver du cuivre, on peut graver de la pierre calcaire. Et donc il va faire des recherches sur la sensibilité des acides à la lumière. L'idée qu'il a derrière la tête, c'est de se dire, si je prends une plaque de cuivre et que j'étale un acide dessus, l'acide va commencer à graver la plaque, mais si de la lumière tombe à un endroit, l'acide va se décomposer, et à ce moment-là, il n'y aura plus attaque de la plaque, et donc en fonction des teintes, eh bien, on aura une gravure plus ou moins profonde, plus ou moins profonde en fonction de l'intensité de lumière. Donc il fait des expériences sur la décomposition des acides à la lumière. Bon, on sait déjà à l'époque que l'acide nitrique que l'on met à la lumière devient jaune, donc on sait qu'il peut y avoir des effets de la lumière. Les effets qu'il va enregistrer, qu'il va observer, sont des effets très faibles, et donc ils ne sont pas suffisants pour entrer en compétition avec l'attaque de l'acide sur une plaque de cuivre. Donc il va abandonner ses recherches, cette idée-là, tout en la gardant dans un coin de sa tête, parce qu'on va voir qu'il va revenir à cette idée un peu plus tard. Il va se consacrer donc à d'autres recherches, et c'est ce qui est aussi extraordinaire lorsqu'on lit la correspondance de Nicéphore Niépce, c'est que lorsqu'il fait une expérience, il y a toujours deux ou trois autres expériences qui attendent dans son esprit. Et donc il fait très rapidement le tour de la chose, et si ça ne marche pas, il ne va pas s'obstiner, il va passer à ce moment-là à une autre expérience. Il se consacre donc à essayer de voir l'effet des acides, qui ne fonctionne pas pour ce qu'il veut faire. Ensuite, il va lire dans un traité de chimie que la résine extraite d'un arbre, le gaillac, un arbre d'Amérique du Sud, eh bien cette résine, lorsqu'elle est soumise à la lumière, d'une couleur grisâtre, elle devient bleue. Donc ça, c'est une première propriété. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est qu'il lit que lorsque cette résine est extraite de l'arbre, qu'elle n'a pas été soumise à la lumière, on peut la dissoudre très facilement dans un alcool, mais qu'une fois qu'elle est transformée, qu'elle est devenue bleue, eh bien elle ne se transforme plus du tout dans un alcool, elle ne se dissout pas. Il y a donc une variété une variation de solubilité, et qui lui fait penser qu'il sera capable donc d'éliminer la résine qui n'a pas été transformée. Il fait les expériences, il voit bien la décoloration. Donc Nicéphore Niépce, vous l'avez vu, essaye différents types d'interactions de la lumière. Il a essayé donc des images qui se font par coloration, par décoloration, ensuite par essai de gravure à l'acide, et ensuite par variation de solubilité avec cette résine dont j'ai essayé de vous parler, cette résine qui devient bleue et qui normalement devient soluble dans l'alcool. Lorsqu'il fait les expériences, il voit bien les effets de lumière, mais il n'arrive pas à trouver la variation de solubilité. Donc il écrit des lettres à son frère en disant, voyez, tu vois comme les livres nous trompent, on lit des choses, mais en fait ça n'est pas vrai du tout. Ensuite, donc il continue ses recherches, et ce qui est étonnant, c'est que dans sa correspondance, eh bien, le ton change. En 1818, donc, il écrit à son frère, j'ai une image qui est fixée depuis 3 mois, donc il écrit en septembre, c'est donc une image qui est réalisée au mois de juillet. Ensuite, en 1820, il reçoit les félicitations de son frère Claude, qui lui dit, bravo, tu as réussi. En 1822, il décrit la reproduction d'un dessin par une méthode que maintenant nous appellerions le tirage contact. Et donc petit à petit, on finit par comprendre que Nicéphore Niépce est arrivé à fixer des images, qu'il a réussi, et que donc il arrive à obtenir notamment ce qu'il appelle des points de vue d'après nature dans la chambre obscure, c'est-à-dire des images de type véritablement photographique. Et ces dessins sont en général reproduits sur pierre lithographique. Alors il avait évidemment des difficultés, il faut trouver un vocabulaire. Au départ il appelle ça des gravures, ensuite il appelle ça des dessins. Il n'est pas tout à fait satisfait à chaque fois, il appelle ça des épreuves. Et pendant une période, il va appeler ces images, il va les appeler des rétines, en disant la chambre obscure c'est comme un œil artificiel et l'image se projette comme dans l'œil, sur le fond, et le fond de l'œil c'est des rétines. Et donc il envoie à son fils, il lui dit voilà, je t'envoie 2 rétines, tu verras, elles ont été prises sur le jardin ou sur la cour. Et donc les premières images sont faites sur pierre lithographique. Alors le 16 septembre 1824, il écrit une lettre à son frère, et je voudrais vous en lire un extrait. Il écrit à son frère, « Mon cher ami, j'ai la satisfaction de pouvoir t'annoncer enfin qu'à l'aide du perfectionnement de mes procédés, je suis parvenu à obtenir enfin un point de vue tel que je pouvais le désirer, et que je n'osais guère pourtant m'en flatter, parce que jusqu'ici je n'avais eu que des résultats fort incomplets. L'image des objets s'y trouve représentée avec une netteté, une fidélité étonnante jusqu'à ses moindres détails et avec leurs nuances les plus délicates. Comme cette contre-épreuve n'est presque pas colorée, on ne peut bien juger de l'effet qu'en regardant la pierre obliquement. C'est alors qu'il devient sensible à l'œil à l'aide des ombres et des reflets de lumière. Et cet effet, je puis le dire, mon cher ami, a vraiment quelque chose de magique. » Donc dans cette lettre de septembre 1824, on a véritablement l'annonce par Nicéphore de son invention, et donc des premières photographies qu'il a réussi à obtenir, qui sont donc sur des pierres lithographiques. Alors, comme l'invention est pour lui déjà bien achevée, évidemment, dans sa correspondance, on n'a pas d'explication sur le procédé, on a simplement des descriptions de résultats. Donc il va montrer un petit peu partout des images autour de lui dans sa famille, mais de plus en plus sur Chalon et ensuite à Paris. Donc par exemple, cette image qui est une gravure sur une plaque d'étain. L'image est gravée sur une plaque d'étain. Elle est conservée au musée Nicéphore Niépce. Cette autre image, alors c'est un portrait qu'il a énormément reproduit, le portrait du cardinal d'Amboise, et qui est gravé donc aussi sur une plaque d'étain. Quoi d'autre encore ? Ce Christ portant sa croix qui est gardé, qui est conservé maintenant à la Royal Photographic Society en Angleterre. Alors vous voyez que ce sont essentiellement pour le moment des dessins qui sont reproduits, ce ne sont pas des vues qui sont faites à la chambre obscure, ce sont des gravures et des dessins. Voilà encore un autre essai qui est maintenant conservé à la Société française de photographie, encore sur une plaque d'étain. On arrive maintenant en 1827, cela fait 11 ans que son frère aîné Claude a quitté la maison de Chalon-sur-Saône, est parti en Angleterre. Et pendant ces 11 ans, il est en Angleterre, il a essayé de perfectionner le moteur. Et au fil des années, Nicéphore a envoyé de l'argent pour qu'il puisse vivre. Mais arrivé en 1827, eh bien, il faut commencer à faire des emprunts. Et donc les prêteurs demandent à Nicéphore Niépce d'aller en Angleterre pour voir la situation de son frère. Et lorsque Niépce arrive près de Londres, à Hammersmith, pour rencontrer son frère, il comprend que la situation est dramatique. Parce qu'en fait, son frère n'a jamais rien fait pour faire évoluer le moteur. Son frère est très malade, il a des crises de démence, il se prend pour un ange de Dieu, il est persuadé qu'il a inventé le mouvement perpétuel. Et donc Nicéphore comprend qu'il est ruiné, c'est-à-dire que l'invention du moteur ne donnera jamais de subside, et que son frère n'a absolument rien fait. Et donc on ne récupérera pas du tout l'argent qui a été envoyé pendant toutes ces années. Alors il décide d'essayer de sensibiliser la Royal Society, pas photographique à l'époque, en montrant des images. Il écrit une lettre à son fils pour lui dire « Envoie-moi les dernières images que j'avais faites au mois de juillet ». Et parmi ces images, dont il fera don à des personnes anglaises au moment de son retour d'Angleterre, il y a cette image qui n'est pas la reproduction d'une gravure, mais qui est véritablement une photographie, une vue qui a été prise par une des fenêtres de la propriété à Saint-Loup-de-Varennes, à 7 km au sud de Chalon-sur-Saône. Alors, ce qu'on voit sur cette image, ici c'est le bord et aussi on a la fenêtre, on voit les carreaux, les croisées, comme disait Nicéphore. Ici c'est l'autre bord de la fenêtre, et puis on voit donc des bâtiments qui ont maintenant disparu, mais que l'on retrouve très bien sur le cadastre de l'époque. Ici c'est un pigeonnier, ce bâtiment avec le toit en pente, eh bien, en langage bourguignon c'est un teck à pourceaux, autrement dit c'est la porcherie, parce qu'on est ici sur la partie de la maison qui est la cour de ferme. Et puis cet arbre avec son trou dans le feuillage, Nicéphore en parle dans ses lettres, c'est comme ça qu'on sait que c'est un poirier de beurre et blanc. Cette image donc a été réalisée en 1827, en juillet 1827, et c'est actuellement la plus ancienne photographie au monde. Elle est conservée à Austin, au Texas. Si on a le temps, je vous raconterai comment elle est arrivée là-bas. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir la regarder. Voici la maison de Nicéphore telle qu'elle est actuellement. Il faut l'imaginer à l'époque, mais sans cette tour qui a été construite depuis. Et c'est dans cette partie que Nicéphore Niépce avait installé son atelier et laboratoire, qui est maintenant un musée que l'on peut visiter. Et c'est au premier étage donc qu'il avait son atelier. Et cette vue, cette plus ancienne photographie au monde, a été faite par cette fenêtre ici, que l'on voit encore un petit peu mieux ici. Donc c'est cette fenêtre qui a servi pour cette photographie historique. La chambre obscure qui a été utilisée, donc c'est une chambre qui est déjà assez conséquente. Nicéphore est assez fier de son invention, donc il fait faire un bel objet avec des moulures. Donc c'est une chambre en noyer, elle est cubique, elle fait 30 cm de côté. Il y a un élément ici qui permet donc de faire la mise au point, un tiroir arrière. Et puis il y a un système qu'on appelle la guillotine, c'est-à-dire que la demi-planchette ici au-dessus peut se soulever et on peut ainsi changer la lentille que l'on met, donc faire varier la distance focale et donc l'angle de vue pour les prises que l'on veut effectuer. En 1828, de retour d'Angleterre, à Paris, Nicéphore Niépce va faire la rencontre de Louis-Jacques Mandé Daguerre, un peintre, un décorateur de théâtre. C'est un décorateur de théâtre qui utilise la chambre obscure pour repérer les proportions de ses décors. C'est quelqu'un qui est devenu très expert dans les décors de théâtre, au point de monter des spectacles uniquement basés sur le décor et de faire du décor, donc un spectacle donc à part entière. Daguerre possède un théâtre près de la place du Château d'Eau, qui est la place de la République, qui porte le nom de Diorama, et dans lequel il fait des spectacles qui sont basés uniquement sur des décors, qui sont peints sur des toiles immenses, qui font 24 mètres à la base, 12 mètres de haut, et ces décors sont peints sur les deux côtés de la toile, et par des effets d'éclairage en regardant, en éclairant soit le recto, soit au travers par le verso de la toile, eh bien, on passe à ce moment-là d'une atmosphère de jour, par exemple, lorsqu'on éclaire la toile par devant, à une atmosphère de nuit lorsqu'on éclaire au travers. Donc vous voyez qu'on a donc une église qui est vide, il n'y a personne, ici il n'y a pas de crucifix, il n'y a pas de statue, et on a cet effet, puisque quand on éclaire par derrière, ce sont des objets qui sont peints par derrière, et que l'on voit apparaître, et puis il y a des trous dans le décor, et à ce moment-là, la lumière passe à travers le décor et paraît beaucoup plus intense. Donc dans ce diorama, Daguerre en général installe trois types de décors de ce type-là, et le tout Paris vient voir ces décors, et Nicéphore est absolument enthousiaste lorsqu'il visite le diorama de Daguerre. On dira qu'entre les deux hommes, le courant passe bien, et donc ils vont décider de s'associer. Et le 14 décembre 1829, Daguerre va venir chez Nicéphore Niépce, près de Chalon-sur-Saône, et ils vont signer un contrat d'association formant la société Niépce Daguerre, dans laquelle il est dit « Monsieur Niépce apporte un procédé de reproduction d'images de la chambre obscure et Monsieur Daguerre s'engage à perfectionner la chambre obscure, à perfectionner l'optique de la chambre obscure. » Dans le contrat, il est stipulé que Nicéphore Niépce doit remettre un texte à Daguerre dans lequel il explique comment il s'y prend pour son procédé. Et c'est donc seulement en 1829, dans ce texte, que l'on apprend quelle est la substance que Nicéphore Niépce utilise pour réaliser ces images. La substance qu'il utilise, elle a un nom donc un petit peu bizarre, c'est le bitume de Judée, qui s'appelle aussi l'asphalte, qui est un composé organique fossile. Donc on comprend bien par le terme bitume qu'il s'agit d'un goudron, comme le goudron qu'on retire du pétrole. Il s'appelle de Judée parce que depuis l'Antiquité, la mer morte en Judée est une source naturelle de bitume, de ce goudron qui remonte à la surface et qui a été utilisé depuis les temps anciens à Babylone pour faire des terrassements. Bon, j'entre pas dans les détails. L'autre terme, c'est l'asphalte, qui vient simplement du nom grec de la mer morte. En grec, la mer morte se dit lac asphaltite. Et c'est donc cette substance que Nicéphore Niépce utilise dans son procédé. Alors, le bitume qu'il emploie est en fait un bitume qui ne vient pas de Judée, mais qui vient de mines d'asphalte qui se trouvent sur les bords du Rhône, à la limite entre le département de la Haute-Savoie et de l'Ain, dans une ville qui s'appelle Seyssel. Alors, une année où nous étions en vacances à Annecy, donc pas très loin, nous nous sommes rendus donc pour essayer de retrouver ces mines du côté de Seyssel. En fait, elles ont fermé depuis les années 60, mais il reste un lieu dit qui s'appelle le Parc. Or, en 1816, quand Nicéphore Niépce cherchait à obtenir de l'asphalte, il cherchait à les obtenir à la mine du Parc. En interrogeant les gens du coin, eh bien, il y a des gens qui connaissent les histoires des mines et qui donc nous ont emmenés là où se trouvaient les mines en 1816. Et donc, nous avons ramassé du calcaire qui est imprégné de bitume, donc c'est un calcaire bitumineux. Et j'en ai ramené donc une quinzaine de kilos au laboratoire et ensuite j'ai séparé le calcaire du bitume. Donc en haut, vous avez le minerai de calcaire bitumineux, ici réduit en poudre. Et puis après lavage par un solvant du bitume, donc en fait c'est le benzène, on récupère la craie, le calcaire et puis le bitume. Alors comment est-ce que Nicéphore Niépce s'y prenait pour faire ces images? Eh bien ce bitume que vous venez de voir, il le réduisait en poudre et ensuite il le dissolvait dans de l'essence de lavande. C'est à l'avantage de sentir très très bon dans le laboratoire, ce qui n'est pas toujours le cas dans les laboratoires de chimie. Il dissolvait dans l'essence de lavande pour faire une solution assez épaisse, et ensuite il l'étalait sur les différents supports qu'il a utilisés, soit au pinceau, soit avec un tampon, comme les ébénistes, comme les vernisseurs. Et donc on obtient ensuite, par séchage à chaud, par évaporation, un vernis au bitume qui est tout à fait analogue avec le vernis des graveurs à l'eau forte. Donc la plaque, qui est ici une plaque d'argent. Nicéphore Niépce a utilisé la pierre lithographique, le verre, le cuivre, la plaque d'étain et les plaques d'argent pour réaliser ces images. Donc cette plaque qui est recouverte du vernis brun au bitume, c'est la plaque photosensible. Alors, le principe... Le principe, il est le suivant, on va regarder sur ce schéma. On a donc un support avec ensuite le film de bitume qui est déposé dessus. Si on imagine qu'une partie du bitume reçoit de la lumière, il va y avoir une transformation qui rend le bitume insoluble dans l'essence de lavande, qui était le solvant qui a servi à l'étaler. Donc si après avoir fait agir la lumière, on plonge la plaque dans un dissolvant à base d'essence de lavande, eh bien, toutes les parties qui n'ont pas vu la lumière sont encore solubles dans l'essence de lavande et sont éliminées, et celles qui ont été transformées par la lumière, eh bien, ne sont plus solubles et restent sur la plaque. C'est donc ce principe de variation de solubilité qu'il a découvert à propos du bitume. Alors, une des premières expériences qui a bien réussi par ce procédé, c'est la reproduction de dessins, donc ce fameux portrait du cardinal d'Amboise qu'il avait chez lui, donc une gravure, c'est une gravure sur bois au départ, imprimée sur papier. Ce qu'il a fait, donc, c'est de rendre le papier translucide en passant au dos un vernis, et puis ensuite de mettre directement en contact le dessin donc huilé sur la plaque d'étain qui était recouverte du vernis au bitume. Et puis ensuite d'exposer tout cela en plein soleil. En plein soleil, avec un papier de ce type-là, il faut 4h, 4h30 pour avoir un effet sur le bitume. Ensuite, on rince le bitume dans l'essence de lavande. Les parties qui n'ont pas été impressionnées vont être dissoutes. Ensuite, on rince avec de l'eau pour éliminer toute l'essence de lavande qui est donc gorgée de bitume. Et on obtient, à la fin, donc, la reproduction du dessin. Là où la lumière n'est pas passée, c'est-à-dire sous les traits noirs du dessin, eh bien, on voit le métal brillant. Et là, partout où la lumière a réussi à passer à travers le papier blanc, eh bien, le bitume a durci et n'est plus soluble et est resté sur la plaque après immersion dans l'essence de lavande. Alors, c'était déjà une grande victoire parce que c'est une image qui est fixée, c'est-à-dire qu'elle est stable, elle ne va plus évoluer et même elle va se consolider sous l'effet de la lumière, mais c'est un négatif. Donc Nicéphore Niépce a cherché comment inverser ce négatif et il a alors appliqué la technique de la gravure à l'eau forte, donc de la gravure à l'acide. Donc il a plongé cette plaque avec son image au bitume dans une assiette contenant de l'acide. Les acides qu'il a essayés au départ, c'était l'acide acétique, ensuite l'acide nitrique. Donc le vernis est complètement étanche à l'acide et donc l'acide va réagir uniquement avec le métal qui n'est pas protégé par le vernis, donc dans les zones qui correspondent aux traits du dessin. Et donc l'acide va ronger, corroder le métal qui n'est pas protégé. Et donc à la fin, après essuyage de la plaque, on obtient le dessin qui est gravé dans la plaque. Immédiatement après, Nicéphore Niépce s'est adressé à un imprimeur à Dijon pour lui demander si on pouvait utiliser ces plaques pour imprimer le dessin sur papier. Et en fait, ça marche très très bien. On peut très bien transférer donc l'encre qui est mise au départ sur la plaque, la transférer ensuite sous la presse sur le papier. Et on avait là donc en 1823 l'invention de la photogravure. C'était la première fois que l'on pouvait reproduire un dessin sans faire appel à un artiste graveur, mais simplement avec des moyens de chimie et de physique. Et c'est véritablement le principe de la photogravure qui était inventé et qui sera perfectionné ensuite après Nicéphore Niépce. La même expérience, alors ça c'est ce qui illustre la phrase que je vous ai lue tout à l'heure sur la pierre lithographique. Tout à l'heure, donc, il disait que l'image c'était magique, on la voyait par des effets de reflet. Ce qui se passe sur la pierre lithographique, donc voilà un dessin qui est reproduit sur une pierre lithographique, on voit le vernis au bitume, le vernis est brillant alors que la pierre lithographique est mate. Donc lorsqu'on la fait briller dans la lumière, on voit le reflet sur le vernis qui brille et à ce moment-là, la pierre devient plus sombre et à ce moment-là, on arrive à voir l'image en positif. Donc ça plaisait beaucoup à Nicéphore, on a à la fois le négatif et le positif sur la même image. Donc voilà cet effet magique dont parlait Nicéphore et que nous n'avons compris que lorsque nous avons fait les reproductions et que lorsque nous avons vu les images apparaître et que nous les avons fait donc briller dans la lumière. C'était continuellement, pendant nos recherches, un aller-retour entre les manuscrits de Nicéphore Niépce et puis les expériences, parce qu'il y avait des phrases qu'on ne comprenait absolument pas, mais il y avait des expériences qui tout d'un coup nous éclairaient, parce qu'on tombait sur une image d'un type différent, et on disait « Ah, ça y est, je comprends, c'est ce qu'il a voulu expliquer », et on arrivait comme ça à combler les trous dans la correspondance et à reconstituer toute la démarche. Ici, je vous montre une image qui est faite, non pas à partir d'un dessin, mais qui est faite dans une chambre obscure, avec un objectif qui a la même luminosité que la lentille la plus lumineuse employée par Nicéphore Niépce. Donc, c'est une vue depuis là où nous habitions il y a quelques années à Meudon. Elle est vraiment pas extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que... Alors, il y a une première chose. Il faut que je vous parle d'abord du temps de pose. Le temps de pose pour un dessin, je vous ai dit, c'est 4h, 4h30. Lorsque l'on essaie de faire une image en chambre obscure et que l'on met un luxmètre dans la chambre obscure, on s'aperçoit que ça va être très très difficile. Et en fait, pour obtenir une image, il faut exposer pendant 2 à 3 jours. Il y a très peu de lumière en fait qui rentre dans une chambre obscure. Et donc, pour transformer le bitume, il faut attendre tout ce temps. Et alors, cette longueur du temps de pose, elle est traduite ici par cette ligne qui est en fait la course du soleil qui se levait tous les matins pendant la prise de vue. Donc, le soleil était bien focalisé sur le bitume et donc le bitume est bien durci. Et donc cette ligne est restée insoluble sur la plaque. Ce qui est intéressant après ces trois jours de temps de pause, c'est de voir que, contrairement à ce qu'on a vu pour les dessins, on n'a pas une reproduction en tout ou rien, mais on a des nuances de bitume. On a un véritable négatif. Alors, pour inverser ce négatif, Nicéphore a d'abord essayé la gravure à l'acide. Le bitume est absolument étanche à l'acide, donc on ne peut absolument pas graver les images. Donc, ce qu'il a trouvé comme idée pendant l'hiver 1828, c'était d'employer des vapeurs d'iode. Il avait lu que les vapeurs d'iode noircissaient les plaques d'argent. Et donc, en été 1828, il a recommencé ses images, mais sur des plaques d'argent, en plaçant les plaques d'argent avec l'image négative au fond d'une boîte, sur le fond d'une boîte comme ceci. Et dans la rainure opposée, il explique qu'il met des grains, des cristaux d'iode. Alors, une des propriétés de l'iode, c'est on appelle ça se sublimer, c'est-à-dire qu'il passe directement de l'état de cristaux à l'état de vapeur, et donc la boîte est saturée de vapeurs d'iode. Ces vapeurs d'iode sont très corrosives, et donc, comme l'iode est une petite molécule, eh bien, les molécules d'iode vont passer à travers le vernis au bitume. Là où il y a très peu de vernis, eh bien, il va y avoir une attaque importante de l'argent. On va former de l'iodure d'argent qui va noircir. Et puis là où le vernis est assez important, eh bien, la plaque d'argent va être protégée. On fait agir donc ces vapeurs d'iode pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, on sort la plaque, on élimine complètement le vernis. Et on obtient, donc après ce décapage à l'alcool, on obtient l'inversion du négatif. Et donc, on a une image tout à fait de type photographique. Une image tout à fait de type photographique. Donc, vous voyez dans l'inversion, maintenant, la trace du soleil est devenue blanche, ici, donc la course du soleil. C'est une image donc, qui est enregistrée sur plusieurs jours, en plein soleil, mais on n'a pas du tout la sensation de plein soleil, parce qu'en fait, comme le soleil tourne, eh bien, les ombres s'annulent. Donc, on a une image qui est un petit peu terne. Et puis, bien évidemment, pendant trois jours, il n'y a absolument personne. Les rues sont vides, puisqu'il n'y a personne qui reste sans bouger pendant la prise de vue. Il y a même des effets un petit peu bizarres. Il y a des fenêtres qui ont à la fois les volets ouverts et fermés. Mais on enregistre très bien une image qui est donc de très bonne qualité, avec une excellente définition. On voit avec précision ici les lattes sur les volets, sur les balcons, et un dégradé de gris qui est tout à fait de type photographique. Donc voilà, une très bonne résolution, 102 paires de lignes par millimètre, un temps d'exposition de plusieurs jours, un excellent dégradé des teintes. Voilà ce que la reconstitution donc, du procédé nous a permis de montrer sur le procédé de Nicéphore-Niépce. Alors, tout ce que je viens de vous décrire est écrit par Nicéphore-Niépce en 1829 dans sa notice sur l'héliographie, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous décrire, que ce soit la photogravure, que ce soit donc les photographies faites en chambre obscure, il a réalisé tous ses travaux seul, pendant les mois d'été, dans sa maison à Saint-Loup de Varennes. À partir du 14 décembre 1829, c'est donc l'association avec Daguerre, et c'est souvent ce que l'imagerie populaire a retenu de cette invention de la photographie, c'est cette collaboration entre les deux hommes, qui vont donc travailler ensemble. Daguerre va venir faire quatre séjours entre 1829 et 1832, quatre séjours de deux semaines à peu près dans la maison de Nicéphore-Niépce, et les deux hommes vont travailler. Et au cours de l'été 1832, eh bien, ils vont inventer un nouveau procédé auquel ils vont donner le nom de physototype. Donc, c'est toujours Nicéphore-Niépce qui trouvait l'agencement des racines grecques. Physototype, image de la nature par elle-même, disons automatiquement. Et c'est un procédé qui se fait uniquement avec de l'essence de lavande. Donc, je dis souvent, si vous avez de l'essence de lavande, une plaque de verre, de l'alcool et du pétrole lampant, vous pouvez faire de la photographie. Alors, la technique du physototype, c'est de distiller de l'essence de lavande. Donc, on prend de l'essence de lavande, on la distille, et à la fin de la distillation, on récupère un goudron dans le ballon. Et c'est ce goudron qui est utilisé, que l'on dissout dans un alcool. Et une fois que le goudron est dissous dans l'alcool, on a cette solution jaune qu'on peut étaler sur une plaque d'argent. Et une fois que l'alcool s'évapore, il reste un dépôt très blanc, très lumineux. Ce dépôt blanc, par chance, il est photosensible, et donc lorsqu'on applique en contact une diapositive sur cette image, et qu'ensuite on soumet cette diapositive à la simple lumière, par exemple, d'un projecteur diapositive, après une demi-heure d'exposition, il suffit ensuite de reprendre l'image qui est toujours blanche, on ne voit rien dessus, et de la soumettre à des vapeurs de pétrole lampant, donc c'est aussi un genre de kérosène, de les soumettre à ces vapeurs, et en quelques minutes, eh bien, on voit apparaître l'image. Donc, vous avez deux exemples ici. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que ce sont des images que l'on voit à nouveau encore en négatif et en positif. Vous en verrez donc les exemples sur les deux tables. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est que lorsque Daguerre, en 1839, inventera le procédé du daguerréotype, eh bien, ce sera des images qui sont tout à fait similaires. C'est-à-dire qu'on peut se tromper en regardant un physiotype, on peut croire que c'est un daguerréotype. Et on commence à croire, à comprendre un peu la polémique qui est née entre le fils de Niépce et puis Daguerre. Quand Daguerre a montré les daguerréotypes, évidemment, le fils a dit « Mais ce sont les images qu'il réalisait avec mon père et que j'ai vu réaliser dans la propriété à Saint-Loup. » En fait, ce sont deux procédés qui sont totalement différents. Donc ce procédé a été inventé en 1832, pendant l'été 1832. Donc vous avez vu que le temps de pose est plus court. On peut faire des images en 7 à 8 heures pour un paysage. Si on prend des objets qui sont rapprochés sur une nappe blanche, on va en voir tout à l'heure, eh bien on peut faire des images en 3 heures, 3 heures 30. 1832, pendant l'été, invention de ce procédé. Et le 5 juillet 1833, un an plus tard, Niépce meurt subitement. Sans avoir été reconnu de son vivant comme l'inventeur ni du moteur à explosion, encore moins de la photographie et encore moins des autres travaux dont j'ai pas eu le temps de vous parler. Ensuite, Louis-Jacques Mandé Daguerre va continuer seul avec ce qu'il a appris auprès de Niépce et il va inventer ce qu'il appellera le daguerréotype, un procédé qui permettra de faire des images en une quinzaine de minutes et donc de pouvoir faire le portrait. Ça, c'est une autre histoire. Je voudrais rester un petit moment sur la plus ancienne photographie au monde, donc réalisée en 1827, en juillet 1827, conservée à Austin, au Texas. Voilà donc une image qui est plus près de la vérité, parce que celle que l'on montre partout est en fait une image qui a été retouchée. C'est une image qui est extrêmement difficile à regarder, parce que c'est une plaque d'étain. Quand on la voit, on a l'impression d'être devant un miroir. Et en fait, il y a une fine couche de bitume de Judée, c'est-à-dire qu'il y a toujours le bitume de Judée employé par Nicéphore Niépce qui est sur la plaque. Et c'est donc par les incidences de lumière que l'on voit l'image en positif ou en négatif. Donc, c'est plutôt cette vision-là qu'on a donc, quand on voit cette image. Alors, je vais vous la montrer à Austin, au Texas. Vous voyez que ça nous change du paysage bourguignon. Austin, un centre de conservation, le Harry Ransom Humanities Research Center. Donc c'est un centre de conservation pour les œuvres d'art. Et c'est un véritable blockhaus. Voilà, donc voilà quelques vues donc, de ce... Il faut donc obtenir une autorisation pour entrer et pour faire des recherches. L'entrée est ici. Alors moi j'ai vu l'image pour la première fois en 1990. Et donc il fallait aller monter dans les étages, la faire sortir des archives. Maintenant, depuis 2003, en fait, elle est visible directement dans le hall d'entrée. Quand on entre dans le hall d'entrée, il y a cette boîte métallique, un petit peu bizarre, dans laquelle on peut rentrer. Il est écrit dessus la première photographie vue depuis une fenêtre au gras, héliographie 1826, en fait c'est 1827. Et donc, on peut rentrer donc par la porte qui est à droite et on se trouve donc face à l'image de Nicéphore Niépce. Donc voilà cette image réalisée en 1827, la plus ancienne photographie au monde. Elle est conservée dans le cadre qu'avait choisi Nicéphore Niépce. On voit qu'on est encore dans un encadrement qui est typiquement celui de la peinture. Une image qui fait 16 cm de haut par 22 cm à l'horizontale. Elle est conservée dans un conteneur où elle est conservée sous une atmosphère d'argon pour éviter toute attaque chimique. Alors c'est une image qu'il faut voir sous différents angles. Donc on tourne autour pour essayer de faire apparaître les éléments. Alors, cette image, ça m'a intéressé d'essayer de comprendre comment elle avait été prise et dans quelles conditions Nicéphore Niépce donc, avait réalisé la prise de vue. Pour cela, image suivante, voilà. Donc, je suis retourné au cadastre, le cadastre de 1830, donc cadastre dressé du temps de Nicéphore Niépce. Voilà la maison avec les deux parties, la partie de maître, de maison de maître, pardon, et ici, donc, la partie où Nicéphore avait son atelier. Donc, l'atelier était ici, et la maison de maître était dans cette partie-là. Donc, la maison, voilà comment elle est actuellement. Avec Photoshop, c'est très facile d'enlever la tour qui n'existait pas, et de donner donc l'aspect qu'avait cette maison à l'époque de Niépce. Ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de reconstituer virtuellement la propriété telle qu'elle était, puisqu'en fait, il manque des éléments maintenant dans la propriété actuelle. Donc, ce que l'on voit sur le cadastre, c'est cette partie-là qui est intéressante, c'est la maison qui est ici, avec un petit bâtiment dessus. Et donc, avec l'ordinateur, il est possible de reconstituer la maison, ensuite de l'habiller. Et l'avantage, donc, évidemment, de cette reconstitution virtuelle, c'est de pouvoir, j'espère que ça va marcher, c'est de pouvoir se déplacer dans la propriété. c'est de se déplacer dans la propriété et donc de se pencher par les différentes fenêtres pour voir quelle est la fenêtre qui correspond donc à la prise de vue. Donc là, on va passer donc dans la cour de ferme. Voilà, on va se tourner vers donc le pigeonnier qui est au fond. À droite, c'est la grange qui existe toujours. C'est le seul bâtiment qui reste. Et puis ce bâtiment qui est toujours donc bien en place. Et au premier étage, ces trois fenêtres qui étaient donc les fenêtres par lesquelles Nicéphore Niépce prenait les vues pour faire ses essais de prise de vue. Alors, on va se retrouver maintenant à l'intérieur donc de la maison. Donc, on retrouve ces trois fenêtres. On est maintenant à l'intérieur. Cette fenêtre-là, donc, c'est celle qui est la plus à droite, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous faire toutes les fenêtres. Ce que l'on cherche, c'est un paysage qui ressemble à celui-ci. Ça, c'est une image qui est prise sur une plaque d'étain. Donc, la réalité, en fait, est inversée gauche-droite, parce que comme ça n'est pas transparent, on ne peut pas regarder à travers comme dans nos négatifs. Et on voit que lorsque l'on s'approche de cette fenêtre, eh bien, on va retrouver, vous l'avez compris, le paysage qui est enregistré sur la plaque de Niépce. On peut même faire la superposition qui devrait venir. Voilà, la superposition des deux images. Et on voit qu'on peut arriver à un excellent accord des deux images. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette reconstitution permet donc d'identifier la fenêtre. Ça, d'autres l'avaient déjà déterminé avant nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut connaître la position de la chambre obscure. La chambre obscure était à 1 mètre de la fenêtre. Les croisées sont ouvertes parfaitement perpendiculairement à la fenêtre. On détermine de cette façon-là la focale de la lentille, qui était autour de 125 mm. C'est difficile d'avoir de la précision par rapport à l'image de Niépce. Et puis, on identifie aussi certains détails de l'image. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour arriver à cette précision, eh bien, j'ai dû, sur la reconstitution de l'ordinateur, déplacer la fenêtre de 70 cm. Tant que je prends la fenêtre telle qu'elle est actuellement, eh bien, il n'y a absolument aucun accord avec l'image de Niépce et on n'arrive absolument pas à superposer. En déplaçant la fenêtre de 70 cm, l'accord devient absolument excellent. Je l'ai mis timidement, ce déplacement, dans mon premier livre paru en 1999, en septembre. Et en décembre 1999, je reçois un coup de fil de Pierre-Yves Mahé de l'école Spéos de Paris qui me dit, voilà, je suis devenu locataire de la partie où Nicéphore Niépce avait son atelier. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Je lui dis, une des choses qui m'intéresserait, c'est de voir si la fenêtre n'a pas été déplacée depuis le temps de l'époque de Niépce. Et donc, un soir de décembre 1989, sans trop avertir le propriétaire, eh bien, nous avons soulevé les lattes du parquet et pour nous rendre compte qu'effectivement, la fenêtre a été déplacée et qu'en plus, elle est bien déplacée de 70 cm. Autrement dit, voilà comment est la façade actuellement. Donc voilà cette fenêtre. Elle est de cette façon. Je vais mettre un pointeur pour repérer sa position. Et voilà en fait comment était la façade à l'époque de Niépce. Et on voit bien que ce déplacement de la fenêtre donne une symétrie par rapport à la verticale au centre. Tout est symétrique, que l'on n'a pas sur la position actuelle. Et puis la petite différence, c'est qu'ici, il y a une cheminée actuellement qui n'existait pas à l'époque de Nicéphore Niépce. On a des gravures faites, des dessins faits par son fils qui montrent qu'il n'y avait pas la cheminée. Donc c'est probablement pour construire cette cheminée, pour avoir de l'espace, que l'on a donc déplacé la fenêtre. Alors vous le voyez, c'est une maison dans laquelle il y a énormément de fenêtres, il y en a beaucoup, il y en a une seule à laquelle il ne fallait pas toucher, et c'est la seule qui est déplacée parmi toutes les fenêtres de la maison. Donc la fenêtre de la première photographie n'est plus exactement à sa place. Voilà, donc j'ai concilié tout ça dans un ouvrage qui est paru en septembre 1999, qui est maintenant épuisé, et puis dans un second ouvrage qui est paru en 2003 et qui reprend donc toute la correspondance de Nicéphore Niépce, publiée avec Manuel Bonnet, qui est descendant direct de Nicéphore Niépce et qui a fait un énorme travail d'archivage et d'épluchage et d'analyse de la correspondance de Nicéphore Niépce. Une autre application de ces programmes qui servent surtout aux jeux vidéo, mais qui peuvent être très utiles, notamment pour essayer de dater l'image de Nicéphore Niépce. Alors, c'est le programme que j'utilise ici, c'est un programme, je reconstitue la propriété très sobrement, mais c'est un programme qui, lorsqu'on lui donne la latitude du lieu, l'orientation, le jour et l'heure, va calculer les ombres sur les bâtiments en fonction de la position du soleil. Donc voilà, par exemple, le 21 juin, à 4h30 du matin, heure GMT, les ombres que je fais défiler, heure après heure, donc on voit le matin, le pigeonnier qui est éclairé, de plus en plus de lumière le matin, la lumière qui rase donc le teck à pourceau, et puis on va arriver progressivement, on va arriver à midi, et on va avoir évidemment le soleil au zénith avec la lumière qui est verticale, Et donc, on peut faire défiler comme ceci toute la lumière, voilà, midi, et puis on continue. Et donc, l'après-midi, l'orientation change, et on voit donc les autres parties du bâtiment à gauche qui sont éclairées. Et on va faire comme ça, donc jusqu'au soir. D'habitude, ça passe un peu plus vite, c'est un peu lent. On a donc tout le film de la journée. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que l'image de Zicéphore Niépce, elle a été exposée, on le voit quand on la regarde bien, elle a été exposée pendant au moins une journée. Donc, ce que je vais faire maintenant dans cette simulation, c'est à gauche, vous allez revoir à nouveau ce que je vous ai montré, c'est-à-dire à gauche, ce que je vous ai montré, ce sont les ombres, et à droite, c'est l'accumulation des ombres pendant une journée. Voilà, donc le matin, à nouveau, ça va pas automatiquement, et on voit donc vers 10h le toit qui commence à être éclairé. On a toujours le pigeonnier qui est éclairé ici, et puis vers midi, on va commencer à éclairer les parties qui sont... Il y a quelque chose qui fonctionne. Ah voilà, ça y est, ça marche. Et on commence donc à éclairer ces parties-là. Et on va voir donc, à la fin de la journée, que l'on a sommé toutes les orientations du soleil de la gauche vers la droite. Cet effet qui fait que, dans l'image de Niépce, il y a des murs qui sont en opposition et qui sont éclairés simultanément. Alors ça gênait beaucoup Nicéphore Niépce, qui appelait ça une disparate. Il faut dire qu'il avait montré cette image notamment à un graveur à Paris, Augustin Lemaître, et Augustin Lemaître lui avait dit « il y a un problème dans votre dessin parce que vous ne connaissez pas les lois de l'éclairage et de la perspective, parce que vous avez des murs en opposition éclairés simultanément ». Et Nicéphore avait répondu « mais ce n'est pas un dessin, c'est une image qui s'est faite automatiquement par les lois de la physique et de la chimie ». Alors là, le graveur ne comprenait absolument rien. Mais donc Nicéphore persévérait parce qu'il savait que son invention avait tout à fait un avenir. Alors, on perd un petit peu une partie de l'écran. L'idée qui était sous-jacente, c'est de recomposer cette image et de le faire pour différents jours de l'année. Donc je vais vous dire ici, c'est le 15 mai, le 10 juin, le 21 juin, le 1er juillet, bon là vous pouvez lire, le 31 juillet et jusqu'au 30 septembre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder cette ombre ici et de la comparer avec l'ombre de Nicéphore. Donc on voit qu'ici, en septembre, mois d'août, fin juillet, il n'y a pas de correspondance. La correspondance, elle est entre le 10 juin et le 15 juin. Donc, c'est dans cette partie de l'année que cette image a été réalisée. Donc, en 1827, première vue, une des plus anciennes vues photographiques au monde, réalisée depuis une des fenêtres de la maison de Saint-Loup de Varennes. Cette maison qui est donc maintenant un petit musée, qui est donc maintenant un musée que l'on peut visiter, qui est ouvert donc pendant les mois d'été. Et dans ce musée, il y a maintenant le plus vieux laboratoire photographique au monde, qui donc est visible depuis l'année dernière, qui est un laboratoire photographique qui a été donc retrouvé dans une ancienne maison en Bourgogne et qui montre ensuite l'évolution des procédés photographiques pendant les 15 premières années de la photographie. Et donc je vous invite, si vous avez la possibilité, à aller visiter, non seulement parce que les lieux sont importants, puisque c'est les lieux de la première photographie, de l'invention et les lieux de la vie de Nicéphore Niépce, mais aussi pour aller y voir donc les trésors qui sont aussi bien autour de Nicéphore Niépce que de ce plus vieux laboratoire du monde. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-Louis Marinier, chercheur au CNRS, prononcée en grande salle des séances de l'Académie des Beaux-Arts le 25 juin 2008. Sa communication s'intitulait « Aux origines de la photographie, Nicéphore Niépce ».